France Inter.
Merci beaucoup Astrid Meignier-Carne. Bien sûr, on se retrouve d'ici une heure pour un nouveau point sur l'information. Ce soir, eh bien, ce sera, comment dire, plutôt clair-obscur, des voix graves, parfois traversées par une certaine anxiété, et puis un désir de vie et de lumière dans tout ça, au cœur de temps plutôt sombres. Pas si vous serez d'accord avec moi, mais cette chanson, c'est un peu comme si Robert Smith, le chanteur du groupe The Cure, chantait dans un album de Gorillaz. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'entends cette chanson que je viens de vous diffuser, une chanson qui s'appelle Love How It Feels, qui est signée et interprétée par un chanteur danois du nom de Elias Rønnefeldt. Elias Rønnefeldt qui vient de publier son nouvel album en solo intitulé Speak Daggers. Alors, to speak daggers, à la lettre parler des poignards, en fait, c'est une expression devenue proverbiale qu'utilise dans Shakespeare, c'est le prince Hamlet en aparté dans un monologue de la célèbre pièce quand il dit qu'il s'apprête à déchirer en paroles sa mère, laquelle, à peine le cadavre de son père refroidi, s'apprête à épouser le frère de celui-ci. Alors, j'ai découvert la voix de cet Elias Rønnefeldt il y a 7 ans déjà, au sein d'un groupe qui existe encore, du reste, du nom de Ice Age. Ice Age en un seul mot, comme l'âge de glace. Un groupe dont Iggy Pop, qui, alors c'est un de mes rares points communs avec lui, je dois avouer, programme et présente une émission de musique sur une radio de la BBC. Oui, Iggy a dit naguère que Ice Age était l'un des très rares groupes de cette génération qui, à ses oreilles, était capable de transmettre dans sa musique un authentique frisson de danger. Une remarque qui ne s'appuyait pas que sur une impression subjective, mais sur une réalité, puisqu'il y a 7 ans, je l'avais raconté en son temps, sur le blog que tenait le groupe Ice Age, on voyait des photos d'un concert qu'ils avaient donné à Manhattan, c'était dans le sous-sol d'une galerie d'art, et ça s'était, il y avait eu une telle émeute que des pompiers avaient dû intervenir pour évacuer le public, dont certains membres, entraînés par la transe, s'étaient franchement blessés. Délibérément, si vous voulez. Ça m'a d'ailleurs rappelé certains concerts punk de ma très, très lointaine jeunesse, The Clash, en 1978 à Paris, dans une salle qui s'appelait le Stadium, qui n'existe plus depuis longtemps. Et là, c'était, je me rappelle, la police qui avait dû carrément intervenir. Ça ne m'étonne pas que ça perdure, hein, ce désir d'émeute et de transe. C'est au fond indéracinable d'un certain moment dans la jeunesse, un moment où on a besoin de ça pour se sentir exister. Bref, les 4 garçons qui ont créé au Danemark Ice Age se connaissent depuis l'enfance, et ils ont d'ailleurs grandi dans le même quartier de Copenhague. Fait important à souligner, c'est qu'ils ont tous quitté l'école à 16 ans. Ils n'ont pas souhaité faire d'études supérieures, ce qui, bon, à notre époque, est pas très, très fréquent. Et comme l'avait alors déclaré Elias, on peut être instruit, intelligent et malin de bien d'autres façons que scolaires, ce qui est indéniable. Partie du rap et du hip-hop qu'ils écoutaient quand ils étaient gamins, c'est de leur génération, les musiciens de Ice Age ont développé un style musical aussi sobre qu'intense. Elias, sur scène, a quelque chose de peut-être plus de Nick Cave que de Iggy, une forme de possession qui n'est pas nécessairement agitée. Parfois, c'est une sorte de faux calme, mais qui semble l'effrayer lui-même. Ice Age est parti d'un punk rock austère, mais au fil du temps, leur musique s'est enrichie. De temps en temps, ils sont accompagnés par un violon et un saxo, et ça peut même être parfois proche d'un certain free jazz. Alors, parallèlement, le chanteur Elias a poursuivi d'autres chemins. Récemment, il a publié un recueil de poèmes. Il a aussi collaboré avec un Anglais, le compositeur, rappeur et chanteur de la banlieue londonienne Dean Blunt, hein, d'origine nigériane. Et il est très intéressant d'ailleurs, ce Dean Blunt, il a quelque chose dans sa façon lugubre de rapper, très éclectique, hein, qui le mène du trip-hop au folk, en passant même par un certain psychédélisme, quelque chose qui peut rappeler Tricky. Enfin bref, Elias a également publié il y a un an un album solo de chansons plutôt mélodieuses, hein, parfois folk, en tout cas plus légères que ce qu'on lui connaît, qui s'appelle Heavy Glory. Et puis, il lui est arrivé au cours de ces dernières années de se produire à travers toute l'Europe, de se produire tout seul, hein, comme un troubadour, dans des églises, dans des librairies, dans des appartements privés. Il arrive parfois à Elias de chanter des chansons country, enfin en tout cas, il y en a au moins une du légendaire texan Townes Van Zandt, qu'il avait découvert lors d'une tournée dans le sud des États-Unis. Et bien voilà, donc en ce fin d'année 2025, Elias Rennenfelt publie un nouvel album solo, et celui-là, explique-t-il, il l'a réalisé dans le home studio de son appartement, une pièce qui est également d'ailleurs sa chambre à coucher, un album, selon son aveu, très influencé par les collages de Damon Albarn et de ses collaborateurs pour les enregistrements signés Gorillaz. Autre chose à présent, c'est un trio qui porte le nom de Bar Italia, et qui s'est formé, comme son nom ne l'indique pas, à Londres, il y a de ça 6 ans, en 2019. Alors il y a une chanteuse, enfin, il n'y a pas que elle qui chante, la chanteuse est une Italienne, une Romaine, pour être précis, qui s'appelle Nina Cristante. Elle a débarqué à Londres il y a longtemps, il y a une bonne quinzaine d'années, et dans cette ville, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, elle a exercé l'activité de nutritionniste et coach personnel. Coïncidence par rapport à Elias, le chanteur de Ice Age, mais ce qui a vraiment des coïncidences, Nina a eu pour partenaire eh bien Dean Blunt, dont je viens de vous parler. C'est en effet Blunt qui a eu l'idée de la faire rapper, de la faire chanter aussi. Alors clairement, Nina n'est pas la chanteuse du siècle, elle est parfois fausse ou simplement à côté, mais d'une certaine façon, c'est bien utilisé. Enfin, ça, c'est ça qui fait le charme, un charme dont bien sûr il ne faut pas abuser, tout étant une question de dosage. Alors en fait, Nina habitait au-dessus d'un appartement que partager en colocation 2 potes musiciens. Alors l'un des deux, c'est Jazmi Tariq Femi. Alors lui, quand on voit les photos, il a la dégaine d'un étudiant à lunettes, hein, cheveux mi-longs, chemise à carreaux, l'air un peu allumé. Et son pote Sam Fenton, ils sont tous les deux guitaristes et chanteurs chanteur Deezer, faudrait plutôt dire, plutôt que rappeur. En tout cas, il se dégage de ces trois-là un charme, une certaine drôlerie discrète et une absence de prétention qui ont séduit depuis plusieurs années déjà un public international, en particulier aux États-Unis. Il paraît même que des fans, pendant leur tournée, font la queue pour se faire tatouer leur nom. Voilà, c'est dire le nom de Bar Italia. Je rappelle donc leur nom, Bar Italia, ben je l'ai fait, et celui de leur nouvel album qui s'appelle Some Like It Hot, un film célèbre, un certain Lame Show. Alors, à l'heure où je vous parle précisément, Bar Italia est en train de se produire à la Maroquinerie à Paris, mais il reviendra dans la capitale, ce sera en février prochain, ce sera à l'Élysée Montmartre. Ce titre s'appelle Fundraiser et c'est Bar Italia ce soir dans Very Good Trip sur France Inter. quelque chose du groupe Big Thief, en tout cas à ses débuts, dans cette chanson qui s'appelle Don't Let Them Tell You, entre parenthèses, It's Fair. Une chanson que signe en fait de nouveau venu dans cette émission un quatuor australien du nom des Bel Air Lip Balms, que le magazine britannique Uncut, qui m'a mis la puce à l'oreille, désigne comme, je les cite, le secret le mieux gardé de la ville de Melbourne. Melbourne, historiquement, une idéale plateforme de lancement pour certains des plus grands noms du rock australien. On peut nommer The Birthday Party, le groupe de Nick Cave, Crowded House, les Avalanches ou encore King Gizzard and the Lizard Wizard, que j'ai dû diffuser, je crois, une vingtaine de fois au moins dans cette émission depuis qu'elle existe. Comme le dit le guitariste des Bel Air, les Bombs, Mike Bradvica, Bradvica, je sais pas comment on dit, Melbourne, c'est la meilleure ville pour la musique en Australie. Alors Melbourne, je le rappelle, c'est une ville portuaire qui domine une vaste baie dans l'extrême sud-est de l'Australie, c'est l'état de Victoria. Et il y a là-bas, précise donc Mike Bradvica, il y a une dizaine de concerts à écouter tous les soirs, y compris les soirs de semaine. Ce qui, souligne-t-il, rend les musiciens très compétitifs. Alors c'est Jack White, ben oui, le Jack White que vous connaissez bien, qui a repéré ce groupe, enfin quelqu'un a dû le lui faire écouter, et il a proposé un contrat d'enregistrement au Bel Air Lip Balms de Melbourne pour sa compagnie de disques, un Third Man, qui est basé, ben, comme Jack White, à Nashville. L'album du groupe, le second, qui s'appelle Again, sort après-demain et ça devrait vraiment séduire les amateurs. Alors bon, évidemment, ni les chansons ni le son des Bel Air, les Bums, ont quoi que ce soit de surprenant, encore moins d'extravagant, mais ils ont une qualité rare, c'est que ça sonne juste. Ça sonne jamais artificiel et c'est tellement, tellement rare aujourd'hui que ça mérite d'être mis en lumière. Je suis d'ailleurs particulièrement sensible à la voix de la chanteuse Maisie Everett, qui peut rappeler parfois, alors peut-être ça parlera à certains, qui peut rappeler parfois le timbre d'une chanteuse anglaise dont le groupe Les Sundays, c'était à la fin des années 80, début 90, a marqué un certain courant folk rock, du rock indépendant britannique, dans le sillage des Smiths. Une chanteuse la chanteuse des Sundays s'appelait Harriet Wheeler, et tristement, elle n'a plus donné aucune nouvelle depuis 1997, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Je vous propose maintenant de découvrir un nouveau titre que signe un duo anglais qui s'appelle Sorry, comme désolé. Sorry qui a été formé il y a quelques années par une chanteuse et guitariste du nom de Asha Lawrence avec son camarade de lycée Louis O'Brien, également guitariste. Alors c'est plutôt intéressant puisque Sorry essaye de coller ensemble différents styles de musique, vous me direz que c'est fréquent, et mais enfin en tout cas d'ouvrir peut-être d'autres voies sonores tout en restant très accessible. Dans le premier album que signait le duo Sorry, un album qui s'appelle 9 to 5, 925, on pouvait entendre une espèce de rock swingant, mais délibérément bancal, sur lequel surnageait souvent un saxophone jazzy. Le duo accomplit en tout cas un travail très fouillé sur les sonorités, puisque Asha et Louis forgent leurs maquettes à partir de logiciels bien connus des spécialistes, le ProLogic et puis Ableton. Puis alors, Il y a surtout la voix, la personnalité assez intrigante de Asha Lawrence, dont l'approche peut faire penser à certains égards au versant le plus expérimental de PJ Harvey. Sa façon de chanter, de rapper aussi, a quelque chose de vraiment très vivant, très incarné, proche de la conversation, et c'est ça qui rend vraiment sa voix attachante. Le nouvel album de Sorry, qui s'appelle Cosplay, sortira dans un peu moins de 10 jours, et Sorry se produira à Paris, mais ce sera dans longtemps, au Trabendo, le 5 mars prochain 2026. We'll be right back.
Very Good Trip sur France Inter, Mishka Assayas.
Forever Elsewhere, un nouveau titre signé par un groupe du nom de Weird Nightmare. Étrange cauchemar, c'était jadis le titre d'un air que le grand contrebassiste de jazz Charles Mingus avait composé dans les années 40, mais enfin là, strictement rien à voir. C'est l'identité d'un groupe qu'a formé un guitariste et chanteur canadien du nom de Alex Atkins, qu'on connaissait sous une autre identité, celle de Metz, hein, M-E-T-Z, hein, comme la ville. Un son qui nous replonge dans un certain courant du début des années 90, comme me le rappelait Vincent Godard, qui a bien connu cette époque. C'était pour aller faire du skate, on écoutait ça, entre hardcore et pop très mélodieux. Je pourrais citer pour les amateurs du genre le nom du trio Sugar qu'avait formé Bob Mould, hein, quelques années après la fin de Who's Could Do. Alors, il y a dans les chansons de Weird Nightmare, propulsées par une excellente rythmique, quelque chose de jaillissant, de mélodieux, qui rappelle que bah, du groupe des années, du début des années 70, Big Star, jusqu'à Sugar, en passant par les Buzzcocks, hein, des Anglais inventeurs immortels de ce style punk et très mélodieux, pardon pour toutes ces références, eh bien, il y a un courant, il y a quelque chose qui s'est transmis, qui s'est même amplifié et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Ça ne fait plus l'actualité, bien sûr, hein, y a tellement de choses qui sont produites dans la musique au cours de ces 30 et quelques dernières années, mais, et c'est là où je voulais en venir, c'est un courant qui est resté très vivant. Et j'en prends pour preuve la réunion annoncée par Bob Mould de son trio Sugar avec ses membres d'origine, une réunion qui suscite un intérêt marqué chez ceux qui ont connu et suivi tout ça, j'en ai fait partie dans les années 90. J'espère qu'ils ont transmis la flamme à leurs enfants. Ils doivent être grands aujourd'hui. Autre chose, depuis 10 ans que cette émission Very Good Trip existe sur France Inter, j'ai eu plus d'une fois, peut-être, je ne sais pas, une dizaine, une quinzaine de fois, j'en sais trop rien, l'occasion de vous faire entendre les productions diverses et variées de toute une bande de musiciens londoniens émanant du circuit des squats d'artistes fauchés des quartiers du sud de la ville. Une des têtes de cette hydre, c'était le groupe Fat White Family, apparu en 2016. Un groupe dont les deux têtes étaient, justement, je parlais d'hydre, étaient le chanteur Lias Saoudi, un garçon de père berbère et de mère anglaise, passé par une école d'art, et puis un peu son alter ego, son ennemi numéro un aussi, le guitariste et compositeur très talentueux Saul Adamczewski. Alors musicalement, Fat White Family s'était situé entre rock industriel, froid et lancinant, et transpsychédélique. Et puis sur scène, c'est un groupe dont on se souvient surtout pour ses performances qui déchaînaient tout un théâtre de bas instincts, bestialité et décadence, un peu comme les Virgin Prunes avaient pu le faire à Dublin 40 ans auparavant, ou dans un autre style, Marilyn Manson dans les années 90. Oui, ils balançaient dans le public des têtes de cochons, des cadavres de pieuvres, enfin des trucs comme ça. Alors ça fait longtemps que Saoudi et Adamczewski ne travaillent plus ensemble. De son côté, Adamczewski, il y a plusieurs années, avait fondé un groupe du nom de Insecure Men, hein, des hommes pas sûrs d'eux, on pourrait dire, un groupe qui avait publié en 2018 un album plutôt pas mal de ballades assez planantes, psychédéliques, auxquelles avait participé Sean Lennon. On trouve d'ailleurs aussi Adamczewski au sein d'un groupe qui s'appelle Warm Dusher, plus récent. En tout cas, les Insecure Men sont de retour 7 ans après ce premier album et ils vont publier d'ici un peu plus d'une semaine un nouvel album du nom de Man for All Seasons. Il y a quelque chose dans cette chanson que vous allez découvrir qui s'appelle Alien, des ballades du Velvet Underground de la période Loaded, en tout cas dans ce titre. On peut aussi penser à T-Rex ou aux Go-Betweens australiens, enfin d'ailleurs on peut penser à plein de trucs, mais peu importe, au fond.
You're an alien.
Balade soul un peu psychédélique sur les bords, assez anachronique, il faut le dire. Always and Over My Head, extrait du nouvel album que vient de publier l'anglais Miles Kane, Sunlight in the Shadows. Le talent de Miles Kane s'est révélé il y a près de 20 ans déjà, hein, ça fait longtemps, en 2007, grâce à un album qu'il avait enregistré en duo avec un pote qui s'était fait en tournée, qui n'était pas n'importe quel pote, puisqu'il s'agissait de Alex Turner des Arctic Monkeys. Leur premier album en duo était paru sous le nom des Last Shadow Puppets. Ça a été une grande réussite, particulièrement appréciée d'ailleurs par le public en France. On y entendait un certain style de ballade rock, un peu désuète, accompagné par un orchestre symphonique. C'est un style qui avait été très populaire en son temps, à la fin des années 60, plus apprécié alors d'ailleurs par un public d'adultes que par un public d'enfants ou d'adolescents, et qui avait déjà inspiré en son temps David Bowie. Un style rétro, donc, qu'avait réinventé sous le nom des Last Shadow Puppets en 2007-2008, deux gamin du nord de l'Angleterre, Miles Kane, qui venait de la région de Liverpool, et Alex Turner, lui, qui venait de Sheffield. Miles Kane vit aujourd'hui, je pense que c'était le cas il y a quelques années, j'imagine que c'est encore le cas aujourd'hui, à Los Angeles, tout comme Alex Turner d'ailleurs, et ils sont demeurés très proches. Alors c'est assez frappant, en tout cas pour mes oreilles, mais la moitié des titres que chante Miles Kane dans ses albums en solo fait beaucoup, mais vraiment beaucoup penser aux mélodies de Mark Bolan et son groupe T-Rex. Autre chanteur, toute autre histoire, l'auteur, compositeur, interprète australien Peter Walsh, on l'appelle aussi Peter Milton Walsh, qui a, lui, alors là, franchement, l'âge d'être le père hein, de Miles Kane. Alors, pour dire les choses très simplement, ce Peter Walsh est une sorte de maudit, de perdant magnifique du rock australien. Oui, ce fils d'un chauffeur routier, enfant d'une triste banlieue de Brisbane, une ville située au centre de la côte est australienne, a, comme beaucoup d'enfants isolés de sa classe d'âge, rêvé d'être le Bob Dylan local dans les années, fin des années 60, début 70. Alors évidemment, c'est pas tout à fait ce qui est arrivé. Le groupe que Peter Walsh a formé, The Apartments, c'était le fruit de son fantasme d'un rock urbain new-yorkais influencé par la légende du Velvet Underground. Alors bon, évidemment, c'était pas le seul à la fin des années 60. 70, un groupe sur deux se réclamait alors du Velvet Underground. Alors, Peter Walsh a vécu son fantasme, puisqu'il est parti s'installer à New York, mais enfin, pour dire les choses vite, ça s'est très très mal passé. Après un passage à Londres, pas plus heureux, eh bien Peter Walsh a dû rentrer déprimé dans sa banlieue de Brisbane, et il s'est mis à écrire des chansons, fruit de ses désillusions. C'était pas très joyeux le cadre, il les a écrits dans une usine désaffectée à la lueur d'une lampe à pétrole. Et c'est ainsi que, après la sortie de son premier album sous le nom des The Apartments, qui était donc le fruit de cette expérience, eh bien Peter Walsh a campé une certaine figure de maudit, et il y a tout un culte qui est né autour de lui, singulièrement chez certains amateurs en France, lecteurs des Inrecuptibles entre autres. Après une longue éclipse, eh bien Peter Walsh est revenu, il a réémergé assez récemment, il y a une dizaine d'années, la voix est toujours là, une très belle voix à l'accent un peu douloureux, et sa présence peut-être a plus de poids encore aujourd'hui. Voici une chanson extraite de son nouvel album qui s'appelle That's What the Music is For. Elle s'appelle A Handful of Tomorrow, et elle est signée donc par The Apartments, et elle a, ça tombe bien, quelque chose de très automnal.
They made mistakes, two dozen, babe. I loved you while the music played. You said they were your Venice years. Some part of you had disappeared.
While the music played. leave them there, 'cause they'll make home of things we'll never know. We can leave them down, 'cause they'll make home of things we'll never hold. And I saw you, you were coming. How little saw me, I was running. How little we understood then. can leave them down, 'cause they'll make home with things we'll never hold. And our walls, we can leave them down, 'cause they'll make home of things we'll never know. And you saw me, I was coming. How little we knew then. And I saw you, you were coming. How little we understood.
Qu'on retrouve toujours avec le même bonheur, celle du chanteur nord-américain Mike P. Hansen. Un chanteur texan d'origine indienne, enfin, faut préciser amérindienne, comme on dit aujourd'hui. Mike P. Hansen a été élevé dans un milieu chrétien fondamentaliste. C'est le fils d'un universitaire spécialiste de poésie anglaise. Maïka, qui a aujourd'hui une bonne quarantaine d'années, il s'en est ouvert, il a longtemps mené ce qu'on appelle une vie dissolue, et il avait 22 ans en 2003 quand il a publié son premier album qui a tout de suite été remarqué, Mike P. Henson and the Gospel of Progress, magnifique recueil de ballades lugubres. Alors, voici ce qu'il a déclaré quelques années plus tard, j'ai écrit sur les drogues, les femmes, le sexe et la destruction de l'âme humaine. Eh bien, il a survécu à tout ça, déjà qu'il avait déjà très jeune, et c'est magnifique, sa voix s'est bonifiée, et j'ai hâte de vous faire découvrir son nouvel album quand il sortira, c'est-à-dire dans pas très longtemps. Il nous reste un peu de temps, celui d'écouter un dernier titre qui s'appelle In the Middle, c'est un tout nouveau titre signé par le trio londonien White Lies, comme petit mensonge, qui publiera d'ici un peu plus d'une semaine son nouvel album, son 7e déjà en une quinzaine d'années d'existence. Un album qui s'appelle Night Light. Alors White Lies appartient à cette vague de trios aux noms souvent cinglants qui sont apparus vers le début, le milieu des années 2000, comme Interpol, Editors, des groupes comme ça. Alors visuellement, toujours, ils avaient quelque chose qui les apparentait. C'était des musiciens aux mines sombres, toujours des hommes d'ailleurs, vêtus de noir, souvent en costume cravate, statiques sur scène et l'air toujours très pénétré, comme s'ils revenaient d'un enterrement qui se préparait à y aller. Des musiciens dans le cas de White Lies, c'est évident, très influencés par un certain rock lugubre qu'on a pu désigner comme gothique du début des années 80. Cela dit, la voix du chanteur de White Lies, Harry McVie, une voix un peu nasale qui monte facilement dans les aigus, a quelque chose qui me rappellerait plutôt Simon Le Bon, le chanteur du groupe Duran Duran. Donc il y a une certaine énergie, un certain dynamisme dans la musique de White Lies, et puis la rythmique bondissante, à quelque chose qui me rappelle aussi l'entrain d'un groupe qui est apparu un peu dans les mêmes années, il y a 20 ans, je pense à Franz Ferdinand. Voilà, c'est In the Middle par White Lies.